Bonjour, merci Pierre-Antoine de ton invitation. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce qui vient d'être dit, mais je n'ai pas le temps. Peut-être qu'on en parlera dans la discussion. Puisque tu citais Guattari, réinventer le tissu social, je parlerai un petit peu d'une réinvention du tissu social au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qui est une question qui relève pour moi de la catégorie de ce que j'appelle la transindividuation, reprenant ce terme à Simondon, enfin je ne reprends pas le terme à Simondon, reprenant un terme de Simondon qui est le transindividuel que j'ai essayé de transformer, je dirais un tout petit peu pourquoi tout à l'heure. Vous verrez qu'il y sera beaucoup question d'éthos et de technique. La démarche que je propose, c'est pour appréhender ce que nous appelons ars industrialis. Donc Christian Forêt et moi-même sommes membres du conseil d'administration, les technologies relationnelles. Nous pensons qu'il faut étudier les très vieilles technologies relationnelles, car c'est pas les technologies relationnelles, ça ne débarque pas comme ça à la fin du XXe siècle, avec le terme proposé par Rifkin, mais c'est une très vieille histoire. Je dirais qu'il n'y a pas d'humanité sans technique ou sans technologie relationnelle. Ça remonte donc au début de l'hominisation et ça passe par d'abord le silex taillé. Ce qui se passe au 5e siècle, enfin même plus précisément au 7e siècle avant Jésus-Christ, nous concerne tous parce que nous sommes des produits stratifiés de ce qui démarre là au 7e siècle et qui relève de ce que j'appelle les natifs du littéral. Autrement dit, le titre de ma conférence est « Literate Natives, Analog Natives and Digital Natives ». Ce que nous sommes tous des natifs du littéral, tous aussi, je crois ici, des natifs de l'analogique, mais pas des natifs du numérique. Et c'est ce qu'on essaiera de voir en voyant aussi que Dodds, par exemple, l'helléniste qui a écrit « Les Grecs et l'irrationnel », posait le problème de l'apparition des natifs du littéral, comme foutant le bordel dans les natifs du mythe, du mythos. Et que les questions que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas tellement, à cet égard, nouvelles, même si elles posent des problèmes tout à fait nouveaux, ça c'est évident. Parmi ceux-ci, d'ailleurs, j'aurais aimé revenir sur la question du court terme et du long terme et de l'analyse cognitiviste et neurocentrique de la psychologie sur le privilège qu'on accorde au court terme. Nous sommes toujours des êtres bidimensionnels. Il y a un côté cochon chez nous, comme le dit la langue familière, et un côté sublimatoire. Notre côté cochon est toujours court-termiste. Mais il y a un autre côté qui ne veut pas de ce côté cochon. Et je pense que dire, en faisant des expériences, on veut toujours aller vers la solution la plus simple, etc., c'est renoncer à comprendre que le cerveau n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des relations entre des cerveaux, des organisations sociales, autrement dit. Dans le cerveau, il passe des choses qui viennent du social. Il y a des organisations sociales qui poussent à la cochonnerie. On connaît bien ça en France en ce moment, et en Europe, en Italie. Et puis il y a des organisations sociales qui poussent à autre chose. Je n'ai rien contre les cochons. J'adore ça, surtout bien cuit. Mais je pense que il n'y a pas d'unité de la psyché, hein, de l'âme, comme on disait autrefois. Et que c'est précisément ce fait qu'il n'y a pas d'unité de la psyché qui fait que nos âmes sont temporelles. Temporelles voulant dire capables de se projeter dans un avenir quasi, enfin pas quasi, structurellement infini. Structurellement infini. L'avenir est infini, sinon il n'est pas l'avenir. Il est le devenir, ce qui est tout à fait autre chose. Et ça, c'est la question du rapport entre pulsion et désir. Ce que décrit l'expérience cognitiviste neurocentrique dont tu parlais tout à l'heure, c'est une approche du caractère pulsionnel de l'âme. Mais le désir, c'est pas ça. Il ne faut surtout pas confondre désir et pulsion, ce que font quasiment tous ces psychologues comportementalistes. Voilà. L'extension foudroyante des réseaux sociaux que nous vivons en ce moment, sur le plan des technologies rationnelles notamment, c'est un phénomène qui nécessite des analyses dans toutes sortes de directions. Je m'y essaye depuis quelques années. Je m'y suis essayé au Centre Pompidou en 2008 et tout récemment au CNRS sous l'angle de l'anthropologie. Je m'y suis essayé sous l'angle de la théorie des métadonnées, en particulier à l'Université de Londres. Je m'y suis essayé dans la théorie de l'attention que je développe depuis une dizaine d'années, et tout récemment dans un colloque qui a eu lieu en Suède, qui s'appelait Taking Care. Et encore plus récemment, à l'Université de Luxembourg, au mois de septembre, en traitant de la question aristotélicienne de ce que Aristote appelle la philia, qu'on traduit souvent par l'amitié, et dont je pense que ça n'est pas exactement l'amitié, mais en revanche, donc c'est bien le sujet d'une transformation industrielle de la philia que ce qui se passe sur Facebook, par exemple, même si Facebook est peut-être un phénomène qui, dans 3 ans, aura disparu. C'est pas une hypothèse que je fais, mais c'est tout à fait vraisemblable en même temps que ça ait lieu, puisque tant de choses sont apparues et ont disparu aussi vite qu'elles étaient apparues, que pourquoi pas avec Facebook. Quoi qu'il en soit, Facebook ou pas Facebook, nous sommes dans un processus massif, colossal même, pourrait-on dire, de réticulation numérique, sous toutes sortes de formes, et cette réticulation numérique pose la question de ce que nous appelons, à l'Institut de Recherche et d'Innovation, les technologies de la transindividuation, technologies industrielles de la transindividuation. C'est d'ailleurs un thème sur lequel je travaille en ce moment dans le cadre d'un séminaire que je fais en visioconférence, où j'essaie de penser le rapport entre la théorie platonicienne du dialogue et la question de la transindividuation. Aujourd'hui, ici, je voudrais essayer d'examiner la question du social engineering sous l'angle de ce qu'il en résulte quant à ce qui, depuis 2 millénaires, plus de 2 millénaires, presque 3 millénaires, s'est stabilisé sous le nom de ce que nous appelons la chose publique. Qu'est-ce que la chose publique? C'est-à-dire, on pourrait dire aussi la cause publique, la causa. C'est la chose, c'est-à-dire la cause qui n'est pas privée. Vous allez me dire, ben voilà, du lapalisse tout craché. Oui, mais c'est une lapalissade qui demande à réfléchir, qui donne à réfléchir. Ce que je veux dire en disant que si la chose publique, c'est la chose qui n'est pas privée, ça signifie en fait que la chose publique a besoin de cette chose privée qu'elle n'est pas, et qu'elle ne peut ne pas être que parce qu'elle l'a produit. Pour qu'il y ait une cause ou une chose publique, c'est-à-dire une affaire publique, il faut qu'il y ait une chose, une cause ou une affaire privée. Affaire, voulant dire ici, ce avec quoi il faut faire, c'est-à-dire action. Originellement en relation avec ce qu'elle n'est pas et qu'elle constitue comme telle, mais aussi qui la constitue en retour comme telle, et avec quoi elle forme donc un système dynamique, une tension, une bipolarité, la chose publique est pour ce qu'elle n'est pas, mais qu'elle rend possible et qui la rend possible. La mutuelle possibilité qui s'ouvre dans cette bipolarité, formant donc une dynamique, c'est ce qui est constitué, c'est ce qui constitue, ce que Gilbert Simondon appelle une relation transductive. C'est-à-dire une relation qui constitue ces termes, l'un de ces termes ne pouvant pas exister sans l'autre, mais l'un de ces termes ne pouvant pas être réduit non plus à l'autre. C'est très important, c'est cette double contrainte, si je puis dire, dynamique, qui constitue une relation transductive. La sphère publique et la chose publique, la res publica si vous préférez, qui s'y rencontrent, ne sont donc possibles que pour autant qu'une chose, une cause ou une affaire privée vient à leur rencontre. Cette rencontre ou cette relation, qui fait de nos jours l'objet des technologies relationnelles, constituant la sphère des affaires privées autant que celle des affaires publiques. C'est en fait la rencontre qui ouvre la relation transductive. Les affaires publiques ne peuvent concerner que des individus privés, c'est-à-dire psychiquement individués, et comme des singularités incommensurables, incomparables les unes aux autres, c'est ce que veut dire privé, pour lesquels la sphère publique, où ils se rencontrent, constitue l'horizon de leur individuation collective. J'emploie ici à nouveau des termes de Gilbert Simondon qui montrent, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on ne s'individue psychiquement qu'à la condition de participer à une nudation collective. Sinon, on est dans le fantasme de l'individuation et on ne s'individue précisément pas. Ces singularités psychiques telles qu'elles se rencontrent dans cet espace commun dit public, c'est-à-dire en grec profanes, littéralement non secret, c'est-à-dire aussi non sacré, où les singularités mettent en jeu leur singularité sur un mode, je parle de la Grèce ancienne, éristique, polémique, agonistique, conflictuel si vous préférez, mais dans une conflictualité pacifiée, c'est-à-dire dans une modalité purement logique ou dialogique, ce qui est l'origine de ce qu'on appelle le logos, où le logos fait fonctionner cette contradiction qui devient le dialogos, c'est-à-dire ce qu'on appellera plus tard la dialectique, ce sont celles des citoyens, ces singularités donc, ce sont celles des citoyens qui apparaissent au 7e siècle à travers les actes desquels se constitue une temporalité nouvelle et originale que depuis Hérodote puis Thucydide, qui sont eux-mêmes des singularités, s'exposant publiquement en écrivant, on appelle cette temporalité l'histoire, avec un grand H. La distinction d'une sphère publique et d'une sphère privée constitue l'époque historique du processus d'individuation psychique collective tel que le conçoit Simondon. Il y a évidemment de l'individuation psychique collective dans toutes les formes sociales, depuis les plus anciennes que l'on connaisse, que l'on trouve par exemple encore dans certaines parties de l'Australie, jusqu'aux plus contemporaines. Mais il y a une période historico-politique de l'individuation qui n'apparaît qu'au 7e siècle. Avant l'apparition de la société profane, c'est-à-dire historico-politique, et constituée par son espace public, Simondon suppose que les sociétés constituent ce qu'il appelle une unité magique. Son analyse laisse du même coup de côté la question des sociétés proto-historiques, c'est-à-dire impériales et basiliques de l'époque que l'on dit archaïque. Je considère cette analyse de Gilbert Simondon comme tout à fait insatisfaisante, mais je n'ai pas le temps de développer ce point ici aujourd'hui, je veux simplement vous le signaler parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que du coup j'adhère à ce que dit Simondon sur l'unité magique, que je crois est une catastrophe intellectuelle de Simondon. Quoi qu'il en soit, ceci étant précisé pour qu'il n'y ait pas de confusion sur mon propre rapport à cette question des sociétés magiques, pré-politiques, etc., Simondon pose que d'une façon générale, et là je le suis totalement, l'individu psychique doit être pensé à partir du processus d'individuation au sein duquel il s'individue, et non l'inverse. Au lieu de partir du processus, les philosophies du sujet qui apparaissent avec les temps modernes, c'est-à-dire grosso modo à partir de Descartes, posent au contraire l'individu comme leur point de départ, ego cogito ergo sum. C'est-à-dire qu'elle se donne cet individu comme toujours déjà constitué, et en cela comme ce qu'on appelait à l'époque des Grecs anciens un hypokaimenon proton, un support primordial, alors que chez les Grecs anciens, il existait un support primordial, mais il s'appelait la physis, et la physis, ça désignait pas simplement la nature, mais tous les processus de croissance, c'est-à-dire d'individuation. Et si vous m'avez bien compris, je suis en train de dire qu'en fait, Simondon revient au point de vue des Grecs anciens. C'est d'ailleurs ce que dit Jacques Garelli dans sa préface à Simondon, qui est paru, je ne sais plus à quelle époque. À partir de ce sujet primordial, je parle du sujet moderne qu'elles appellent aussi le sujet transcendantal, les philosophies issues des temps modernes tentent de penser des processus dont le sujet serait l'origine. C'est-à-dire qu'elle dit, il y a un sujet, et ce sujet déclenche des processus, dont le sujet est l'origine, la cause, la chose, en latin, res, en l'occurrence, la res cogitans, c'est-à-dire la chose pensante, dit Descartes. Qu'il conçoit, Descartes, en l'opposant à la res extensa, c'est-à-dire à la chose étendue, qui est la chose produite par la chose pensante. Je vous parle de tout ça parce que ce qui est à l'horizon de Mon propos, c'est la res publica. Quoi de la res publica à l'époque des réseaux sociaux? C'est ça le sujet. Hein, si on veut se poser cette question sérieusement, il faut remonter au présocratique. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, on va faire de l'éditorial de journaux ou de revues brillantes parfois, mais à mon avis, qui ne mènent pas très loin. Au contraire de la pensée moderne, de la pensée cartésienne, et de ce qui va suivre comme étant la pensée du sujet transcendantal sous toutes ses formes, jusqu'à Husserl, la pensée d'individuation part du processus d'où surgissent, au cours de ce processus, et comme des concrétisations du processus, les choses, les causes, les affaires d'individus eux-mêmes issus du processus, dont l'histoire, au sens où celle-ci est à la fois en allemand « Geschichte » et « Historie », commence avec l'écriture. L'écriture qui la rend possible, tout en rendant possible la distinction du public et du privé. L'écriture qui est évidemment une technique relationnelle. Distinction du public et du privé rendue possible par l'écriture, le privé que l'on nommera bien plus tard les sujets, mais qu'à l'époque on appelle les citoyens. Simondon pose qu'il n'y a d'individuation psychique que par la participation de l'individu psychique à l'individuation collective. Que l'individuation psychique n'est pas, mais pour laquelle elle est, et qui n'est que pour elle, comme je vous le disais tout à l'heure, de la chose publique et de la chose privée. Je ne m'individue psychiquement que dans la mesure où mon individuation psychique vient à la rencontre d'autres individus psychiques, dans une individuation collective qui n'est précisément pas simplement psychique, mais sociale. C'est ce qui se passe en ce moment même ici. Cette rencontre est faite pour ça. On appelle ça une rencontre. Nous sommes une trentaine d'individus psychiques qui tentons de nous individuer collectivement. Ça s'appelle un programme de recherche ethos. Je voudrais montrer ici, premièrement, que le jeu différentiel où l'individu psychique et l'individu collectif s'individuent de concert, mais différemment, devenant ainsi ce qu'ils sont, et se transformant dans cette trans-individuation, ce jeu différentiel n'est possible que parce que se produit en outre une individuation technique, qui paradoxalement n'est pas pensée par Simondon. Simondon est connu avant tout comme le philosophe des techniques, mais s'il y a un truc que ne pense pas Simondon, c'est l'individuation technique. Enfin, je dirais qu'il la pense en réalité, mais il ne la désigne jamais comme telle, il rend quasi impossible de l'appeler comme cela. Vaste sujet. Il faudrait évidemment se demander pourquoi, mais j'en ai pas le temps. Donc l'individuation psychique et l'individuation collective supposent, selon moi, une individuation technique, où des objets techniques forment un système technique qui lui-même ne cesse d'évoluer, et c'est lui qui s'individue. C'est le système technique. Jusqu'à ce qu'à un moment donné apparaisse la machine, et que là, ce soit la machine qui s'individue à l'intérieur du système, comme un quasi-individu psychique. Ça, Simondon le dit d'ailleurs. Deuxièmement, je voudrais montrer que c'est par l'intermédiaire des objets techniques, c'est-à-dire des choses, affaires et causes, par lesquelles et à travers lesquelles les individus psychiques s'individuent, que l'individuation psychique peut devenir aussi une individuation collective. L'individuation technique concrétisant et matérialisant dans l'espace la conjonction de coordination dans cette expression individuation psychique et collective. Le « et » qui est une conjonction de coordination comme dans « mais où est donc ornicard ?» Et vous voyez où je veux en venir, enfin où je pourrais en venir, ornicard. Qui est ornicard? Eh bien c'est celui qui est concerné par ces trois dimensions de l'individuation. Et la conjonction de coordination ici est absolument capitale, en ce sens qu'elle passe par des choses qui sont dans l'espace et pas dans le temps. Troisièmement, je voudrais montrer que c'est par l'individuation technique de l'écriture et comme spatialisation mnémotechnique du temps de la parole, c'est-à-dire par la transformation du temps de la psyché en un espace commun, Et à travers cette spatialisation du temps de la parole, une spatialisation de la sphère intime et psychique de ce qu'on appelle en grec la phronesis, ce qui veut dire la pensée, qui devient par là même, à partir du moment où elle est spatialisée par l'écriture, non plus simplement la phronesis, mais le logos, c'est-à-dire la pensée rationnelle, non pas la pensée en général, c'est par là que l'individu psychique peut, au cours du devenir historique de l'individuation psychique et collective, au moment où donc on change de régime d'individuation, où on est passé de l'individuation préhistorique à l'individuation proto-historique, ça c'est le passage du paléolithique supérieur au néolithique, et qu'on passe du proto-historique, c'est-à-dire et les sociétés, les empires hydrauliques, etc., jusqu'aux Mésopotamiens, aux Égyptiens, on passe à l'historique à proprement parler, c'est-à-dire aux Grecs et à la Judée. Mais je ne vous parlerai pas de la Judée, je n'ai pas le temps. Parce que la Judée fait partie du sujet, bien entendu. Il ne se passe pas la même chose, mais l'écriture se développe au même moment, à 500 km de là, ou à, je ne sais pas combien, 1000 km de là, dans le royaume de Judée. C'est très important. Pas tout à fait la même écriture, mais c'est quand même une écriture alphabétique, et une littération se produit par quelque chose qu'on appelle non pas les livres, comme dit Platon, mais le livre. Qui produira d'ailleurs plus tard ce qu'on appellera les évangiles. Bon. Quatrièmement, je voudrais montrer que l'écriture appartient à un processus plus ample, beaucoup plus ample, de ce que j'appelle la grammatisation. Et que ce que nous appelons de nos jours, le numérique est un stade de la grammatisation. Comme une époque de l'individuation technique, sachant que le stade numérique de l'écriture, car le numérique c'est de l'écriture, c'est de l'écriture automatisée, prise en charge par des machines qui sont plus simplement mécaniques mais électroniques, eh bien, ce stade numérique de l'écriture peut en venir à détruire non seulement la distinction de la chose publique et de la chose privée, mais aussi celle de l'individu psychique et de l'individu collectif. Donc elle peut en venir à détruire non seulement la structure politique dans laquelle, historico-politique dans laquelle nous vivons depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, mais la structure d'individuation psychosociale en tant que telle. Ça, c'est la question de l'écologie de l'esprit. Cinquièmement, et dernier point que je voudrais développer, c'est que, cependant, et tout aussi bien, la numérisation permet d'imaginer que le processus dans son ensemble, le processus d'individuation psychosociale, se recompose en totalité et constitue un nouvel âge de la chose publique, c'est-à-dire de l'individuation psychique et collective, se transindividuant au niveau planétaire, puisqu'aujourd'hui tout ça se joue planétairement, ou rien. Ce qui ne veut pas dire que tout est totalement déterritorialisé, parce que dans le même moment où tout se joue planétairement ou rien, des réseaux sociaux peuvent se former dans cette salle-là, éphémèrement ou durablement, et se limitant à 20 personnes qui vont produire de la transindividuation, tout en s'articulant avec le réseau planétaire. Ces questions-là, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, ce sont des questions de pharmacologie, de ce que j'appelle la pharmacologie. C'est le titre de mon dernier livre, « De la pharmacologie ». La bipolarité dynamique que forment le public et le privé est déjà ce que donne à penser Jean-Pierre Vernant dans les analyses qu'il propose dans Mythes et pensées chez les Grecs d'un couple constitué par le dieu Hermès et la déesse Hestia. Avant de citer ces analyses magnifiques, je dois insister cependant ici sur le fait que dans Protagoras, le dialogue de Platon, où Protagoras lui-même prend la parole, Hermès vient après Prométhée et Épiméthée. Et ça, c'est très important. Le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, dont j'ai beaucoup parlé dans le passé, nous dit que les mortels que nous sommes sont constitués par leur technicité. C'est-à-dire par quoi ? Par le feu de Zeus, qui a été volé dans l'atelier d'Héphaïstos par Prométhée. Prométhée et Épiméthée dotent les mortels que nous sommes de leur technique. Mais celle-ci, dit le mythe, ne sont que des artefacts, c'est-à-dire des qualités par défaut ou des expressions du défaut de qualité, par défaut d'être. Et elles sont comme les signes et les stigmates du défaut d'origine qui marque ces mortels de leur temporalité même et dont procède cette technique qu'est aussi la parole. Je vous signale que dans ce texte, Platon définit la parole comme une technique. Quand même très important. C'est vrai qu'il fait parler Protagoras, mais c'est quand même lui qui signe le dialogue et qui accrédite ce discours. Or, le mythe raconte que, dans l'épreuve de ce défaut de qualité, les mortels, qui ont été mis au jour, comme dit le mythe, par Prométhée et Épiméthée, en viennent à s'entretuer. Puissants de leur technique, très puissants de leur technique, c'est-à-dire du feu divin, ils n'ont pas, dit Zeus, le savoir politique qui leur permettrait d'être ou de devenir ensemble, depuis et par la multiplicité de leur caractère, multiplicité qui est issue de leur technicité, c'est-à-dire de la multiplicité de leur technique. Les techniques sont toujours déjà plurielles, une espèce de diversité proliférante. Ils n'ont pas de savoir politique, ils ont un savoir technique, et du coup, ils retournent les armes contre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils s'autodétruisent. C'est ce savoir politique que, selon Protagoras, Hermès, convoqué par Zeus et missionné par Zeus, va leur apporter. Un savoir qui est fondé sur des sentiments, le sentiment de la justice et le sentiment de la honte, ou l'on dirait plutôt dans une langue ancienne, la vergogne, parce qu'en espagnol, vergüenza existe toujours. Et j'ai appris tout récemment qu'en Espagne et au Portugal, on dit beaucoup que les Français n'ont pas de vergogne. Ça vient de l'époque de Napoléon, je crois. Pour des raisons que vous voyez au Prado.
En italien aussi, on parle de la vergogne.
Ah oui. Je ne savais pas ça. Justice et vergogne se disent dike et aidos en grec. Il se trouve que ces sentiments, nous dit Hermès, sont aussi des techniques. Ça, c'est très intéressant. Des sentiments qui sont aussi des techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces sentiments qui sont des formes attentionnelles, c'est ce que j'ai appelé en Suède, dans le colloque dont je parlais tout à l'heure, taking care, des formes attentionnelles, eh bien, et elles doivent être formées, ces formes. Elles ne sont pas là spontanément. Autrement dit, ces sentiments ne sont pas des attributs de la psyché native, mais c'est ce qu'il faut former, et ce sont dont est dépourvu, par exemple, Victor, l'enfant sauvage d'Itard, du docteur Itard. Ce que nous dit Hermès, c'est qu'il faut une thérapeutique herméneutique pour doter les mortels qui sont bourrés de ces artefacts qui ne sont que des défauts de qualité, pour transformer ces défauts de qualité en qualités qu'il faut. En ces qualités qu'il faut et qui s'appellent la justice et la vergogne. Qu'est-ce qu'une thérapeutique? S'il faut une thérapeutique herméneutique. Une thérapeutique, c'est un soin pris à ce dont il faut prendre soin. On prend soin de la chose parce qu'il faut en prendre soin. Ça veut dire que la chose ne se suffit pas à elle-même. En l'occurrence, ici, ce dont il s'agit de prendre soin, c'est le pharmakon, que s'avère être la technique. Tout le monde sait que Platon a parlé du pharmakon dans Phèdre. Beaucoup moins de gens savent qu'il en parle aussi dans Philebe, plus tard, à la fin de sa vie. Mais en fait, il en parle dès Protagoras. Il n'utilise pas le mot de pharmakon, mais c'est ce qu'il décrit, bien entendu. Ce que décrit Protagoras, ce sont des pharmaka. C'est-à-dire des remèdes pour suppléer aux défauts de qualité qui deviennent tout de suite des poisons, c'est-à-dire qu'on s'entretue avec ce soi-disant remède. C'est la technique comme puissance qui est aussi le stigmate d'un défaut d'être qui constitue un défaut d'origine et qui est le défaut du pharmakon en tant que tel, car le pharmakon peut devenir empoisonnant. Mais si l'on en prend soin, et à la condition du soin que l'on peut en prendre, appelons ça l'écologie, si on veut, eh bien il peut devenir ce que j'ai appelé le défaut qu'il faut, et ce qu'appelait ainsi, je crois, Gilles Deleuze, pas sous ce terme, mais en se référant à Joe Bousquet et en convoquant la pensée des stoïciens, car c'est ça qui est en jeu, dans le rapport de Deleuze à la nécessité. Thérapeutique, qu'on appelle aussi l'épiméléia chez les Grecs, et que Foucault décrit dans les techniques de soi, dans le, en particulier dans l'écriture de soi, comme cette possibilité de renverser l'accident en nécessité, c'est-à-dire d'en faire ce qu'il faut, de ce qui est totalement accidentel, arbitraire, etc., eh bien, ce qui devient la nécessité même, ce que nous voulons, ce que nous désirons, car c'est le désir qui est ici en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire de transformer le défaut en ce qu'il faut ? C'est le faire s'individuer non seulement technologiquement, ce qu'il fait spontanément, parce que le système technique s'individue tout seul, il n'a pas besoin de nous. Il a besoin de nous, mais il n'a pas besoin de notre volonté ni de notre désir. Mais là, c'est l'individuation non simplement technologique, mais aussi psychologique et sociologique du pharmacone qui se produit et qui donne ce qu'on va appeler une société. Et en l'occurrence, là, dans ce que décrit Protagoras, la société politique qui est fondée sur un droit public. C'est ça que je vais raconter maintenant. Cette triple individuation, c'est l'enjeu de la politique comme savoir de ceux qui partagent un espace public, c'est-à-dire un espace d'écriture par où s'intensifie leur individuation psychique tout aussi bien que leur individuation collective, c'est-à-dire leur unité. Ici, le multiple ne s'oppose pas à l'un. L'un et le multiple, c'est la grande question que posent les présocratiques dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, mais ça ne s'oppose pas, ça ne se confond pas non plus, cela compose. Et l'un n'est pas l'identique. La politique est la relation qui se noue entre l'individu psychique, c'est-à-dire la sphère privée, dirions-nous dans un langage moderne, et l'individu collectif constitué par la sphère publique. Individus psychiques et individus collectifs doivent être appréhendés comme des processus d'individuation, c'est-à-dire de transformation. Je le disais déjà tout à l'heure, mais le mythe de Prométhée et d'Épiméthée nous enseigne que la processualité de ce processus procède fondamentalement de la technicité des individus psychiques qui forment les individus collectifs. La technicité est ce qui fait l'objet, dit le mythe de l'invention, eurisko en grec. Elle est elle-même et originellement une transformation. L'activité immédiatement des mortels, c'est ce que dit le mythe, c'est la transformation, c'est l'invention. C'est pourquoi il faut considérer non seulement deux, mais trois types d'individuation, psychique, collective et technique. Ce qui permet que l'individuation technique n'aboutisse pas à la destruction de l'individuation psychosociale, c'est la techné politique, comme l'appelle Platon. Comme thérapeutique de l'individuation technique, en tant qu'elle est pharmacologique, c'est-à-dire telle qu'elle lie les individuations psychiques, formant ainsi liée une individuation collective, et telle qu'elle peut aussi en venir, tout au contraire, à détruire ce processus d'individuation et se renverser en un processus de désindividuation. C'est ce que décrit Gunther Anders, par exemple, mais en ne voyant pas le caractère pharmacologique de la chose. C'est en cela que le pharmacone est donc à la fois le remède et le poison des mortels qui constituent la mortalité comme telle, c'est-à-dire la temporalité. C'est entre ces deux possibilités du pharmacone que s'ouvrent les rapports entre le passé et l'avenir et que se constitue un présent, comme la question, en fait, d'une temporalité du désir. Je vais y revenir. C'est précisément la possibilité de la désindividuation dont nous, les pauvres airs du XXIe siècle, éprouvons et endurons de nos jours l'imminence planétaire. Face à un processus d'individuation technologique qui nous paraît détruire ce qui ne peut lier la sphère publique à la sphère privée, que pour autant que cela permet tout aussi bien de les distinguer comme les deux pôles indissociables d'une relation dynamique transductive. De nos jours, en effet, le pharmacone numérique, en tant que technologie du social engineering, est ce qui tend à annuler la sphère privée, laquelle tente elle-même à s'encoder intégralement et en cela à se trouver immédiatement exposée dans ce qui ne peut plus se constituer en sphère publique, s'il est vrai qu'une telle publicité suppose une sphère privée. C'est-à-dire aussi, voilà un point que je ne développerai pas, mais qui est à mon avis capital, un temps différé. Car derrière la question publique-privée, il y a le rapport temps réel, temps différé. Mais ça, je n'ai pas le temps de développer. Une sphère privée que l'on peut aussi appeler l'intimité. La diversité des pensées intimes, qui sont par exemple celles qui vous habitent actuellement, en ce moment même, pendant que vous m'écoutez, constituant par l'espace de contradiction publique qui va se mettre en jeu tout à l'heure dans notre discussion, et où nos pensées intimes vont se rencontrer, ce qu'on va appeler alors, dans cet espace public constitué par l'écriture et la littération des âmes, des natifs du littéral, un espace critique et un temps critique. La thérapeutique qu'Hermès apporte aux mortels est une herméneia. Herméneia qui fera le titre d'un traité d'Aristote très important, qui introduit ce qu'on appelle l'organon, le périherméneïs. C'est une discipline interprétative, un savoir herméneutique qui suppose que l'interprète soit capable d'accéder au sentiment de la diké, c'est-à-dire de la justice, et donc aussi de l'injustice. C'est ce que dit Aristote, hein, si vous ne savez pas ce que c'est que l'injustice, vous ne pouvez pas connaître la justice. Ça veut dire, si vous avez bien compris, que pour pouvoir être juste, il faut être injuste. Car un homme qui n'est pas injuste ne peut pas savoir ce que c'est que la justice. Il ne peut pas éprouver le défaut de la justice. Et d'autre part, au sentiment de la honte ou de l'indignité ou de la vergogne, qui est aussi le sentiment, dit Gilles Deleuze, de la bêtise. Avoir honte, c'est d'abord avoir honte de la bêtise, dit Deleuze. Et ça, et de notre propre bêtise. On ne peut pas avoir la bêtise d'un autre si on n'est pas bête soi-même. C'est exactement comme la justice. Le savoir politique doit savoir prendre soin du savoir pharmacologique, c'est-à-dire du pharmacone, qui est lui-même le fruit des savoirs efficients, c'est-à-dire des savoirs techniques, pouvant toujours se retourner en contre-efficience, on dirait dans le langage contemporain, en contre-productivité. Mais là, je parle d'efficience en pensant à la théorie des quatre causes, cause matérielle, cause efficiente, cause formelle et cause finale, les théories d'Aristote. Non seulement ces savoirs efficients peuvent produire de la contre-efficience et de la contre-productivité, mais ils peuvent produire, proprement parlé, de la toxicité. C'est ce que raconte le mythe de l'apprenti sorcier, et c'est toute la question tragique des Grecs, qu'ils appellent l'hubris. Et c'est aussi la question tragique de la situation dans laquelle nous sommes depuis 2008. Une toxicité généralisée, avérée, reconnue, y compris par M. Sarkozy ou Alan Greenspan. Hermès, dieu voyageur et interprète par qui commerce les dieux immortels, les anthropoïs mortels, Hermès qui est donc le dieu du commerce, entendons ce mot au sens le plus vaste, le dieu des commerçants, le dieu des interprètes, le dieu des écrivains, des écrivains, c'est le dieu de l'écriture, Hermès, c'est lui qui invente l'écriture dans la mythologie grecque, et qui est donc le dieu du commerce entre les mortels eux-mêmes, c'est un dieu qui fait pendant à Hestia, la déesse Hestia, comme dieu de l'espace public ou commun, qui fait pendant à la déesse de l'intimité, de la sphère privée, que Vernon appelle le foyer. Autour de ce foyer se forme et se concentre la sphère privée, où s'entretient l'intimité d'un feu. Tiens, 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 revoilà le feu. Du feu qui est, on l'avait vu tout à l'heure, le symbole de la puissance de Zeus, de la technique passée entre les mains des mortels, mais aussi du désir dont Pandora, la femme d'Épiméthée, qui est la proto-femme, plus exactement la figure de la différenciation sexuelle, est également l'incarnation, puisque le feu, c'est aussi, déjà pour les Grecs, pas simplement pour Corneille et un certain nombre d'autres, la représentation de la flamme, c'est-à-dire de l'amour, du désir, y compris du désir comme pulsion, comme décomposition pulsionnelle, puisque Pandora, vous le savez peut-être, dans Hésiode, représente la fringale pulsionnelle de la femme en chaleur, parce que c'est vraiment comme ça qu'elle est décrite. Or, Hestia, qui n'est pas Pandora, c'est la femme, telle qu'elle prend soin du feu qui chauffe en tant que foyer, et dans la chaleur duquel s'épanouit l'intimité de ceux qui désirent. Feu dont il faut prendre soin pour l'entretenir, pour qu'il ne s'éteigne pas, mais aussi pour éviter qu'il mette le feu à la maison. Maison qui, brûlant, met le feu à la maison d'à côté, et finalement met le feu à la cité tout entière, y compris comme, pas forcément feu physique du feu, mais délire du désir qui se met à s'emparer des passions, comme passion des âmes, et par exemple comme mégalomanie de Œdipe ou tyrannie, etc., puisque c'est ce qui se trouvera finalement mis en scène dans les tragédies de Sophocle, à mon avis, de manière fondamentale, c'est la question de la démesure du tyran, etc., etc. Le feu du foyer est en cela aussi un pharmacon, le pharmacon dont Hestia prend soin, qu'elle entretient tout en évitant de le laisser déborder du foyer, le contenant dans son intimité même, et en cela le distinguant fondamentalement de la sphère publique, et disant surtout pas dans la sphère publique. Ce qui est le sens de l'aïdos, c'est-à-dire de la pudeur. Je ne sors pas toute nue sur la place publique, par exemple. C'est la base de cette honte et de cette vergogne qui consiste à ne pas déballer les affaires de famille dans la sphère publique, par exemple, également. Et c'est de maintenir cette différence entre le public et le privé qui constitue la sphère de cette intimité dans laquelle peut se produire ce que j'appellerai, en citant René Char, le désir demeurait désir. Il faudrait ici rapprocher Hestia, dont Pandora est donc la face cachée, de ce que Winnicott appelle la mère Good Enough, the Good Enough Mother. Mais je n'en ai pas le temps. Vous comprenez peut-être pourquoi je le fais. C'est parce que pour moi, Winnicott, qui est le penseur de l'objet transitionnel, qui a joué un rôle très important dans la pensée de Guattari d'ailleurs, cet objet transitionnel, c'est un pharmacon. Et Winnicott le décrit comme tel. Autrement dit, la mère, qui est une Hestia de l'enfant, du feu de l'enfant, lui donne un pharmacon qui est le doudou, l'objet transitionnel, dont elle lui apprend à l'investir de son intimité et en même temps à la désinvestir, puisque ce qu'explique Winnicott, c'est qu'il faut d'abord apprendre à l'enfant à investir le doudou pour ensuite l'en séparer, pour qu'il puisse devenir adulte et se séparer du même coup et de sa mère et de son père. C'était une parenthèse. Le fait qu'Hermès et Hestia forment un couple transductif, tout comme je disais tout à l'heure que le privé et le public sont en relation transductive, c'est ce que nous apprend Vernon lorsqu'il écrit ceci, je le cite, « À Hestia, le dedans, le clos, le fixe, le repli du groupe humain sur lui-même. À Hermès, le dehors, l'ouverture, la mobilité, le contact avec l'autre que soi. Le couple Hermès-Hestia représente, dans sa polarité, la tension qui se marque dans la représentation archaïque de l'espace, dit Vernon. » Et il continue en disant « Ni Hermès ni Hestia ne peuvent être posés isolément. Ils assument leur fonction sous la forme d'un couple, l'existence de l'un impliquant celle de l'autre, à laquelle elle renvoie comme à sa nécessaire contrepartie. Bien plus, ça c'est très important, cette complémentarité même des deux divinités suppose en chacune d'elles une opposition ou une tension intérieure qui confère à leur personnage de Dieu un caractère fondamental d'ambiguïté. » Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que les dieux sont eux-mêmes clivés à l'intérieur d'eux-mêmes, et que, d'une part, et d'autre part, qu'ils sont dans l'ambiguïté, ambiguïté que Vernon redécrira beaucoup plus tard, 20 ou 30 ans plus tard, dans un texte absolument fondamental qui s'appelle « À la table des hommes », qui a été publié dans « La cuisine du sacrifice », où il explique que le rapport à Prométhée, c'était ça la base de la religion des Grecs, parce que c'est Prométhée qui était l'origine des mortels pour tous les Grecs, et qu'autrement dit, la religion grecque, enfin ou plutôt la piété grecque, car pour moi c'est pas une religion, c'est une pratique du pharmacon, de manière fondamentale, dans toutes les dimensions de la mythologie grecque. Voilà ce que dit Vernon. Et il appelle ça la question de l'ambiguïté de laquelle on ne peut jamais sortir, la situation pharmacologique sans solution. Alors, si j'insiste ici sur le caractère clivé et de Hestia et de Hermès, mais je dirais surtout d'Hestia là pour le coup, c'est parce que cette intimité qui constitue Hestia et que Hestia entretient, eh bien, c'est ce que Lacan appelait aussi une extimité. Je veux dire par là que cette intimité est toujours déjà elle-même constituée par la Prométhéia, fondant une Épimétheia, qui constitue cette Prométhéia et cette Épimétheia, les deux faces du pharmacon, et qu'elle est déjà là, cette pharmacologie, dans le foyer lui-même, dans l'intimité elle-même. Ce n'est pas du tout simplement ce qui est au dehors. C'est pour ça que l'objet transitionnel est indispensable. C'est pour ça que le fétiche est nécessaire au désir. C'est pour ça que Pandora est apportée, par exemple, aux mortels, couverte de bijoux par Héphaïstos et Athéna. Elle n'arrive pas toute nue. Ce sont les bijoux qui la rendent désirable. Ce n'est pas sa nudité. Et ça, c'est absolument capital. Et ces bijoux, ce sont des pharmacas. Ce sont ce qu'on appelle depuis Freud des fétiches. L'existence d'un espace public et de tout ce qui s'y forme comme publicité, cela étant dit, c'est-à-dire aussi comme connaissance commune, car la publicité, c'est ce qui va rendre possible la transformation de l'initiation en enseignement, c'est-à-dire la constitution du scoléion, qui donnera ce qu'on appellera au XIXe siècle l'école publique. Et d'abord, comme une connaissance de la loi, car c'est la première connaissance dont parlent les Grecs anciens, qui est aussi le savoir de Diké et Aïdos, cultivé et entretenu dans et par le partage écrit de cette loi, qui doit être entretenu, ce savoir de la loi, comme on entretient un feu, car le rapport à la loi peut toujours se perdre, on peut appliquer la loi à la lettre en en ayant perdu l'esprit, tout le problème de Antigone. L'existence de cette connaissance publique qu'est la res publica, qui doit être privativement interprétée dans l'intimité de ce que nous, les modernes, nous dirions constituer notre âme et conscience. Je dis ça parce que c'est une expression qu'utilisait la Révolution française dans les procès, où on ne demande plus de jurer devant la Bible, mais de nous prononcer en notre âme et conscience. Mot très moderne, qui n'a rien de grec pour le coup. Tout cela, qui commence au 7e siècle et qui existe encore aujourd'hui, s'est fondé sur un dispositif de publication. Pas d'espace public sans instrument de publication. Dispositif de publication dont, malheureusement, Platon va organiser le refoulement lorsqu'il va commencer à opposer dans Phèdre l'anamnésis à l'hypomnésis. Lorsqu'il va commencer à dire l'anamnésis n'a rien à voir avec l'hypomnésis, c'est-à-dire avec l'écriture. Et que la véritable pensée est quelque chose de tout autre que l'écriture. Et à partir de là, il va refouler la possibilité de penser le fait que la res publica suppose un espace de publication, c'est-à-dire des technologies de l'écriture, depuis les écritures bien plus anciennes que les Grecs d'ailleurs, jusqu'à Facebook et au-delà, y compris l'écriture du génome, car aujourd'hui on écrit dans les molécules vivantes et dans les atomes. IBM écrit en nano avec le STM, en nanotechnologie, c'est aussi de l'écriture, à un niveau nanométrique. Cet espace public constituant la res publica comme espace de publication, où se rencontrent ce qu'on appellera plus tard la res cogitans et la res extensa qui la constituent, c'est ce qui ouvre un fonds de savoirs objectivés et profanes en tout genre. Le savoir de la loi, disais-je tout à l'heure, mais également toutes sortes d'autres savoirs. Quoi qu'il en soit, la géométrie, bien entendu, l'histoire, la géographie, la rhétorique, la logique, la philosophie. Quoi qu'il en soit, quant à la loi politique, qu'est-ce que c'est ? C'est une loi à laquelle nous sommes exposés et qui est elle-même exposée à la critique par le fait que nous nous y exposons. De la loi, la question de la loi politique, c'est la question de la loi telle que chacun doit s'y soumettre sur le fond de son droit et de son devoir de la critiquer. Ce qui fonde la loi, c'est la critique de la loi, chez les Grecs. C'est-à-dire de la transformer, autrement dit de l'individuer, et de la trans-individuer dans un processus d'individuation collective d'un nouveau genre qui renverse le système basilique, et celui qui opère ce renversement sur la mythologie grecque, c'est un basileus lui-même, il s'appelle Maiandrios, qui décide de mettre en commun, c'est ce que décrit Vernon, le pouvoir basilique et de dire maintenant il est à tous les citoyens à travers l'écriture, c'est ce que montre parfaitement Vernon. À partir de là, va se séparer la sphère publique de la sphère privée, en effet, dans une séparation qui n'est pas une opposition, hein, et où va se constituer la citoyenneté en tant que telle, en tant que autonomia, et non pas simplement isonomia. C'est-à-dire que chaque citoyen va être doté de sa privacité, si je puis dire, de son autonomie, qu'on va le requérir à exprimer pour que la loi puisse s'individuer. C'est ainsi donc que le public se distingue du privé sans s'y opposer, puisque tout au contraire, il ne cesse de composer et de se constituer mutuellement dans cette relation transductive. Ce qui est public se distingue du privé tout en constituant le privé, qu'il constitue en retour, dans la stricte mesure où, entre la sphère publique et la sphère privée, comme Hermès entre les foyers, cela circule. Voilà ce que je voulais introduire, le thème de la circulation et des circuits qui se forment et qui se transforment entre les sphères privées, passant par les sphères, la sphère publique, et qui, en se transformant, se relient et circulent en produisant ce que j'appelle les circuits de transindividuation. Ces circuits sont ceux que trame l'individuation psychosociale comme réseau, à la fois dans l'espace et dans le temps, et à la fois dans l'espace et le temps public, et dans l'espace et le temps privé, c'est-à-dire intime. Ces circuits, ils s'inscrivent dans la sphère publique. Ils ne restent pas dans la sphère intime. Et c'est ça qui est très important. C'est ce qu'on va regarder maintenant de manière très précise. C'est entre l'individu psychique et l'individu collectif devenu public, c'est-à-dire constitué par la publicité des conditions de sa constitution. L'individu collectif devenu public, c'est l'individu collectif qui rend public les conditions de sa constitution, les règles, autrement dit, de sa constitution, explicitement, avec une constitution, ce qu'on appelle une constitution, précisément. Ça s'appelle comme ça, la constitution. Enfin, c'est depuis les révolutionnaires de 89 qu'on appelle ça la constitution, mais les lois que dépose, par exemple, Héraclite à la déesse, Dike, etc., ce sont des constitutions, à proprement parler, hein. C'est entre l'individu psychique et cet individu collectif devenu public que s'installe, sous certaines conditions typiques du processus qui commence au 7e siècle avant Jésus-Christ, ce que nous appelons la res publica. À travers ce processus de publication, par où se forme une doxa, une opinion, qu'après la réforme luthérienne, puis la République des lettres, puis la constitution de la presse écrite, comme nouvel âge de la publication, ce qui suppose l'imprimerie, on appellera dans la modernité l'opinion publique. Cependant, l'opinion publique suppose la doxa, qui n'est pas encore ce que nous appelons nous l'opinion publique, et elle apparaît, cette doxa, avec l'écriture gravée au burin dans le marbre. Gravée au burin, après chaque décision du prytané, du boulotérion, par des règles qui imposent que les scribes de cette époque-là, qui sont les scribes sont des marbriers en fait, il y a un délai pour que les décisions qui ont été prises par le collectif, par l'individuation collective, autrement dit par les processus de transindividuation, s'inscrivent dans des endroits stratégiques, on va le voir tout à l'heure, de la cité grecque. Et non seulement cela, mais ces lettres sont peintes en couleurs vives pour être certain que les gens les voient. Et c'est ainsi que se constitue la politeia, mais cela signifie que les citoyens savent lire et écrire, évidemment. Que cette constitution repose sur les savoirs de l'écriture et le dispositif de publication qui en résulte, c'est ce qui ressort manifestement d'une enquête historique qui a été menée par Marcel Détienne et une dizaine d'autres hellénistes, dont Patrice et Nicole Laureau, qui a été rendu public dans un livre paru il y a une vingtaine d'années maintenant aux presses universitaires de Lille, qui s'appelle « Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne ». Et je cite Détienne. Vers 650, quand apparaissent les premiers textes législatifs ou juridiques, la royauté a disparu, 650 avant Jésus-Christ, bien entendu, et jusqu'au souvenir de ces palais lointains. Depuis un siècle au moins, l'écriture alphabétique est en circulation. Les marchands, les poètes, les artisans, les particuliers, chacun en use à son gré et comme il l'entend. Simple, lisible, elle ne sera jamais réservée à des professionnels. Mais à partir de 650, avec les législateurs, c'est-à-dire avec Solon, qui choisissent de mettre par écrit les lois de la cité, l'écriture change de statut. Elle devient un opérateur de publicité. Elle est constituante du champ politique. Par l'audace de quelques-uns, conscients de l'enjeu, Solon, mieux que tout autre, affirme le geste fondateur. Écrire les lois, c'est une citation de Solon, semblablement pour le mauvais et pour le bon. Fin de citation. Au lieu d'imposer une tyrannie ou d'attiser les dissensions. Les règles fondamentales de la vie en cité, l'écriture les rend monumentales, visibles, c'est Détienne qui parle, et parfaitement lisibles afin que chacun se soumette à leur volonté. Une machine complexe leur sert de support dans le prytané, dans le lieu de la décision politique. C'est la machine à écrire dans le marbre. Table d'écriture dressée au centre de l'espace public, tableau graphique consacrant l'indépendance de l'écrit. Exposée dans les endroits les plus en vue, sur les sites les plus visibles et dans les lieux les plus fréquentés, le marché, les portes de la cité, etc., les lieux de culte, les stèles couvertes d'écriture invitent, je cite ici un texte grec, « qui le veut à prendre connaissance de ses décrets et de ses lois ». Gravées et peintes en couleurs vives, les lettres se veulent lisibles pour le plus grand nombre. Fin de citation. Autrement dit, dans la sphère publique que constitue la politeia, les citoyens ont également, isonomiquement et technologiquement et structurellement accès à l'espace public, c'est-à-dire à la publication, mais aussi à l'écriture de la loi, puisqu'ils peuvent déposer des propositions de modification de la loi. Ils sont représentés régulièrement en étant tirés au sort, comme vous savez, etc. Et donc, ils sont exposés à la publication de la loi, non seulement en tant qu'ils peuvent la lire et la lire à la lettre, mais en tant qu'ils peuvent l'écrire également à la lettre. Dans cette cité se constituent divers régimes d'individuation politique, c'est-à-dire d'individuation collective fondée sur la publicité, qui vont de l'aristocratie à la tyrannie, en passant par la démocratie, l'oligarchie, etc. Platon donne des listes dans tous ses dialogues, qui ignorent la monarchie à proprement parler, celle que nous appellerons la monarchie absolue, qui sera renversée par la République en France et ailleurs, dans le monde ensuite. Et sur ce registre, la démocratie constitue pour l'Occident moderne, à partir du moment où la République renverse la monarchie, la démocratie devient synonyme de la République et constitue l'idéal politique, à proprement parler, l'idéal politique de la modernité dans les pays, en tout cas, qu'on appelle démocratique. La société démocratique ne se déploie véritablement en France qu'avec l'instruction publique. Cependant, les sociétés démocratiques modernes deviennent ainsi, et dans le même temps, des sociétés industrielles, où le citoyen est dilué dans et par le consumérisme, dont on parlait tout à l'heure avec Anders, et où, comme consommateur, dont la crise de 2008 révélera la toxicité et l'addictivité de manière patente, c'est-à-dire la dimension fondamentalement pulsionnelle et toxique, empoisonnant les environnements physiques aussi bien que les environnements mentaux, et faisant système avec un capitalisme pulsionnel qui n'investit plus, qui désinvestit parce qu'il est devenu totalement spéculatif, l'individu psychique donc se trouve désindividué et avec lui les processus d'individuation collective, et le sentiment est que la démocratie est fondamentalement menacée. Cette crise advient au moment où s'impose l'évidence, voilà ce que je voulais souligner et je vais conclure sur ces questions-là, que les générations les plus jeunes constituent ce que l'on appelle de nos jours des « digital natives ». C'est au moment où on commence à parler des natifs du numérique que la crise éclate. Et on va faire une corrélation, explicitement ou inconsciemment, entre ces deux phénomènes. Si j'en avais eu le temps, j'aurais souligné, je le disais tout à l'heure, que Dodds, dans « Les Grecs et l'irrationnel », montre quelles difficultés ont été induites dans la Grèce ancienne à l'époque dont je parle, 650 à 550 à peu près, par l'apparition des literate natives. Évidemment, il ne les appelle pas comme ça, mais c'est exactement ce qu'il décrit. Ce sont eux, c'est ce qu'il appelle la jeunesse athénienne, celle que Anitos accuse Socrate de manipuler, comme on pourrait accuser Facebook de manipuler la jeunesse. Ce sont eux qui vont renverser la gérontocratie, et qui vont créer des troubles à un moment donné, qui vont conduire à des massacres, des centaines de milliers de morts. Il faut savoir ça quand même. Athènes, ce n'est pas simplement les magnifiques statues blanches qui d'ailleurs ont été peintes à l'époque, ce n'est pas simplement les extraordinaires temples et la paix sociale que célèbrent tous les philosophes et tous les grands dirigeants grecs, c'est en fait la guerre civile quasi permanente. C'est les meurtres, c'est la stasis, ce que les Grecs appellent la stasis. Ce n'est pas du tout un endroit pacifique. C'est ça qui conduira, c'est ce que dit Dodds en tout cas, Socrate à devoir boire la ciguë, plutôt que d'accepter l'exil, parce qu'il ne veut pas se dédire, et il ne veut pas, devant la jeunesse athénienne justement, se trahir lui-même, donc il dit plutôt mourir que me trahir. Et je vous rappelle qu'il demandera à Criton, dans la dernière minute de sa vie, au moment où la ciguë commence à faire son effet, c'est-à-dire que ses yeux commencent à se fermer, il dit « va sacrifier un coq à Asclépios ». Qui est Asclépios ? On vous dira certainement que c'est le dieu de la médecine, et on aura tort. C'est le dieu du pharmacon. Car ce qui fait qu'Asclépios est Asclépios, c'est que d'abord, il est capable, avec les deux sources sanguines de la Gorgone, de faire un remède et un poison. C'est ça qui fait qu'ensuite, il va devenir médecin. C'est en effet le patron des médecins. On les appelle à l'époque les Asclépiades. Le premier, c'est Hippocrate, mais au départ, c'est un pharmacien. Et c'est à ce dieu du pharmacon que Socrate demande à Criton d'aller sacrifier de sa part. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre époque, ce qui s'est effondré en 2008, ce n'est pas le monde des digital natives, c'est le monde des analog natives, c'est-à-dire notre monde, à vous et moi. Si vous avez plus de 35 ans, vous faites partie des analog natives. C'est le monde de ma propre génération, formé dans la fréquentation du cinéma, de la radio et de la télévision, de par Landers. La génération des consommateurs, qu'on appelle également, en France notamment, les baby boomers, et qui ont détruit le monde, ces baby boomers, en grande partie. C'est par une perversion de la raison lettrée, de ces literal natives, qui est devenue une rationalisation, rationalisierung en allemand, entendons le mot au sens de Max Weber, de Theodor Adorno, d'Herbert Marcuse, de Jürgen Habermas. C'est par cette transformation de la raison lettrée en rationalisation, mise au service de la consommation, que le consumérisme s'est installé en combinant la culture lettrée, celle de ce que la dialectique de la raison de Adorno et Horkheimer appelle la raison des Lumières, hein, qui est une culture lettrée, c'est la culture de la République des Lettres, comme on l'appelle, qu'il faut aussi penser que Martin Luther, c'est un point fondamental que je n'ai pas le temps de développer, parce qu'il faudrait montrer comment Luther a lui-même été un rapport entre, non pas les digital natives, mais les printing natives, ou je ne sais pas comment appeler ça, hein, et ceux qui étaient ceux de l'époque du manuscrit et des incunables, hein, qui étaient les clercs papistes, et c'est de là qu'est née la réforme, c'est très important cet aspect des choses. Quoi qu'il en soit, c'est par la combinaison de cette culture lettrée avec la culture de masse qui apparaît à Hollywood en 1910 et qui vient répondre aux nécessités de la société de masse que Ford est en train d'installer avec la production de masse à travers la production à la chaîne, etc. C'est de là que se sont développés les processus de captation et de destruction de l'attention qui conduisent à 2008. Ce n'est pas du tout les digital natives. Les digital natives, c'est au contraire l'espoir de sortir de cette situation calamiteuse que nous, les analogues natives, nous avons laissé se développer en étant totalement inconscients du caractère pharmacologique de tout cela. Face à cette catastrophe, quoi qu'il en soit, que penser de ce que j'appellerais l'upomnématon numérique, c'est-à-dire de ce nouveau stade de l'écriture digitale qui semble à la fois, d'une part, en effet, fermer l'espace public issu de la Révolution française, mais aussi de la Révolution de Cromwell, hein, pas simplement de la Révolution française, mais aussi de la Réforme et de tant d'autres choses. Hein. Il n'y a pas que la Révolution française, heureusement. Révolution française sur laquelle, d'ailleurs, il faut souligner, on ne le fait pas suffisamment, à mon avis, que ce qui enchaîne immédiatement et comme sa vérité historique, c'est la Révolution industrielle, qui combine la Révolution française et la Révolution anglaise, d'ailleurs, et qui se combine un peu plus tard, un siècle plus tard exactement, avec la Révolution américaine, ce qu'on appelle la démocratie américaine, qui était issu d'une révolte des colons contre la métropolis anglaise, c'est-à-dire contre le modèle européen, inventant une nouvelle forme de démocratie que Tocqueville décrira, et qui en 1908 va se réagencer via Henry Ford en quelque chose qu'on appellera « The American Way of Life », qui n'est pas évidemment anticipé par Tocqueville, mais qui en même temps est anticipable. Que d'ailleurs Baudelaire, d'une certaine manière, anticipe. Je crois que par moments, Baudelaire, pensant à la modernité américaine, sent venir quelque chose comme ça. Et d'autre part, cette hypomnaton numérique semble promettre de rouvrir tout autrement cet espace public et sa chose intime, et son extimité, si je puis dire, c'est-à-dire l'individuation psychique, pour autant qu'une thérapeutique, c'est-à-dire une véritable politique ou une écologie politique de tout cela, serait enfin mise en œuvre face à ce pharmacon et de ce pharmacon. Une politique qui serait fondée sur ce pharmacon-là, qui n'est pas la fin du pharmacon analogique ou du pharmacon littéral, puisque le pharmacon numérique, c'est à la fois du littéral, de l'analogique et du numérique. C'est du multimédia, comme on dit. Si j'en avais le temps, je m'attacherais à vous montrer que cet inouï, ce caractère inouï du pharmacon numérique repose à la fois sur le dépassement de l'opposition entre production et consommation, ça c'est le sujet de ce que nous appelons l'économie de la contribution, et sur le dépassement de ce qui semble opposer top-down et bottom-up, c'est-à-dire synchronie et diachronie, par la prolifération de métadonnées qui raniment tous les débats ouverts par Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ, ou plutôt par Socrate, et dont Platon referme le dossier dans la République. Puisque dans la République, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Platon tranche. Il décide que, une bonne fois pour toutes, la diachronie, on va l'anéantir et la soumettre intégralement au savoir du philosophe roi, du gardien de l'être, comme dit le politique, qui va faire de tous ces moutons diachroniques une bonne synchronisation. Et en fait, il programme, d'une certaine manière, les industries culturelles qui vont synchroniser tout ça. Et il dit, il faut que la musique serve à synchroniser les comportements. S'il y a de la poésie, elle doit être soumise à la décision du philosophe, etc. Il est en train de mettre en place ce que, bien avant les industries culturelles, l'Église fera aussi, et beaucoup, et tous les grands pouvoirs centraux. Ce qui se joue à travers le numérique, c'est la possibilité de produire des métadonnées bottom-up et de réagencer le bottom-up et le top-down dans des conditions absolument nouvelles. Alors, pour conclure, j'en ai vraiment plus pour longtemps, l'éthos dont nous parlons dans les questions d'éthique, c'est l'éthos des mortels, oi thanatoi. Et c'est la question de l'aidos qui doit être la façon d'habiter cet éthos. C'est ça qu'enseignent les Grecs. Aidos, qui est la honte de leur mortalité, qu'il s'agit de transformer en un investissement, qui les constitue comme le savoir de leur différence avec les immortels pour les Grecs. Aidos, je vous le signale, ça vient du dieu Hadès. Le mot Aidos, ça vient de Hades, qui est le dieu des morts, le dieu qui règne sur les morts, dans l'Hadès, qu'on appelle l'Hadès, c'est-à-dire qu'on traduit par l'enfer ou les enfers. Cet éthos, c'est ce qui constitue, dans un vocabulaire qui est le mien, et que j'essaye de vous caser maintenant, que je vous propose, disons, une organologie générale. Qu'est-ce que c'est que l'organologie générale ? C'est ce qui noue entre eux les organes psychosomatiques, les mains, les yeux, les oreilles, le cerveau, le foie qui psychosomatise tellement, avec les organes artificiels, les systèmes d'écriture, les patins à roulettes, l'ordinateur que je suis en train de lire, ou les fétiches de Pandora, et les organisations sociales, autrement dit les organes sociaux, l'école de télécom, le groupe de recherche que tu animes, etc., où se concrétisent les individuations psychiques, techniques et sociales, de concert, plus ou moins bien. Parce que ces trois niveaux de l'organologie générale sont parfois en désajustement, c'est ce que pense Bertrand Gilles, c'est ce qui nous donne à réfléchir. Et si on a besoin d'une thérapeutique de ce pharmacon, c'est pour éviter que ce désajustement devienne une destruction des trois individuations. Dans ce jeu des trois individuations, contre-individuation et désindividuation, il y a une question éthique dans la mesure et dans la démesure où le pharmacon est la loi de l'organologie. Une loi qui est elle-même écrite, formalisée et en cela transformée et partagée comme telle aux conditions de la grammatisation à l'époque des Grecs. En gravant dans le marbre, à l'époque de Luther, en l'imprimant sur des livres, ça créera la République des lettres, et à notre époque, dans le silicium et à la vitesse de la lumière. La grammatisation numérique permet-elle encore qu'une telle loi soit en effet une thérapeutique et non pas une toxicité généralisée ? Je crois que oui, évidemment, et bien plus que la grammatisation analogique. Mais c'est avant tout une question d'économie politique, ça n'est pas simplement une question d'éthique. L'éthique aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de penser l'économie politique. Voilà ce que je veux proposer. Après Marx, qu'il ne s'agit pas de jeter à la poubelle, il faut repenser les questions kantiennes de l'éthique et de la morale en passant par l'économie. Et c'est là que, non pas Gunther Anders, mais Jonas, dont on fait parfois un héritier, Hans Jonas, est un problème. C'est que chez Hans Jonas, tout comme chez Heidegger, l'économie n'existe pas. L'économie, c'est une histoire de matérialisme, et les phénoménologues que sont Anders, Jonas et Heidegger ne veulent pas en entendre parler. Or, nous, nous parlons de d'hypomnématone industriel. Et quand on parle d'industrie, on parle évidemment d'économie. C'est pourquoi la question de la philosophie du care qui a été posée, par exemple, par la subite déclaration de Martine Aubry à ce sujet, est une question importante. Nous-mêmes, à Ars Industrialis, nous soutenons depuis des années maintenant que l'économie est une affaire de soins et réciproquement, donc une affaire de care. Mais si on en fait une simple question d'éthique du care, alors on est en train d'enfermer le problème, d'en faire une espèce de petit sujet comme les droits de l'homme, pour permettre à toute cette entreprise industrielle de détruire en fait l'attention, de liquider tous les systèmes de soins, d'organiser la désindividuation généralisée. Et ça, c'est une calamité. Il s'agit de reposer la question du partage des savoirs, du partage des responsabilités, au sens où Kant disait dans Vasista Aufklärung que la majorité, c'est le partage des savoirs et de la responsabilité, mais dans quoi ? Dans un processus de déprolétarisation. Aujourd'hui, les savoirs ont été détruits par la prolétarisation généralisée, y compris le fait que les mères ne savent plus s'occuper des gosses parce qu'on ne leur donne plus la possibilité de le faire, et qu'ensuite on les poursuit comme en Angleterre, Tony Blair l'a imposé pour identifier les mères célibataires et les identifier comme de potentielles mères de délinquants, etc. Vous savez ça, c'est absolument honteux. Et cette stigmatisation de la prolétarisation, eh bien, c'est ce qu'il faut dépasser aujourd'hui pour une nouvelle économie politique que j'appelle moi une économie de la contribution, qui est en fait une thérapeutique du pharmacon numérique. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je crois que j'ai un peu dépassé mon temps de parole.